propre vie spirituelle. Et c'est un grand honneur que vous nous faites de venir passer cette soirée avec nous avant d'aller présider le grand pardon de Notre-Dame du Roussillon. Alors c'est pour la petite histoire, et je le dis avec un certain sourire, il y a exactement 150 ans, ce fut l'inverse. Le légat représentant le pape Pie IX est allé couronner Notre-Dame du Roussillon avant de venir couronner Sainte-Anne ici même, 8 jours plus tard. Alors oui, Éminence, un grand merci. Et permettez que je remercie quelqu'un d'autre ce soir. Je voudrais remercier particulièrement le père Frédéric Fagot d'avoir pensé d'emblée au sanctuaire pour cette soirée, alors qu'il vient d'être nommé par notre évêque, tout en gardant ses fonctions actuelles, responsable de ce que l'on appelle la formation permanente pour le diocèse. Ainsi donc, Éminence, vous inaugurez en quelque sorte des propositions que nous voudrions faire sur le sanctuaire de formation et de réflexion théologique et spirituelle. À l'image de Sainte Anne méditant la parole de Dieu avec sa fille, l'une des missions de ce sanctuaire est bien celui de la transmission de la foi. Merci donc à vous, Éminence. Merci à vous, Monseigneur. Merci au Père Frédéric Fagot, à qui je laisse maintenant la parole pour présenter cette soirée.
Éminence, merci d'avoir accepté l'invitation de l'enseignement catholique du Morbihan. Il y a 2 ans, vous deviez venir dans le diocèse pour parler devant les chefs d'établissement de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Vous n'avez pu venir et vous aviez promis à Mgr Santelle de venir dans le diocèse rencontrer les chefs d'établissement. C'est fait. Vous êtes intervenu à 17h cet après-midi devant des chefs d'établissement, des animateurs, animatrices en pastorat scolaire, des éducateurs, des professeurs de nos établissements catholiques du Morbihan. C'est pour nous un honneur de vous accueillir dans ce haut lieu religieux de la Bretagne. Quelques éléments bibliographiques, vous êtes né en Guinée. Dès l'âge de 12 ans, vous fréquentiez régulièrement une mission des pères spiritains, avec notamment la rencontre avec un père spiritain breton, et c'est parmi ces missionnaires que vous avez découvert votre vocation. Ordonné prêtre le 20 juillet 1969, vous fêterez donc cette année, vous avez fêté vos 50 ans de sacerdoce, que vous fêterez à Noël dans votre pays natal. Vous êtes nommé archevêque de Conakry le 13 août 1979 par Saint Jean-Paul II à l'âge de 34 ans. Saint Jean-Paul II vous appelle à Rome en 2001 comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Benoît XVI vous crée cardinal en 2010 et vous nomme président du Conseil pontifical Cor Unum qui accompagne et coordonne les actions de charité des organismes catholiques dans le monde. Et le pape François a fait de vous en 2014 l'un de ses plus proches collaborateurs en vous nommant à la tête de la prestigieuse congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Vous êtes l'auteur en collaboration avec Nicolas Dia de 3 ouvrages à succès en France, à l'étranger, Dieu ou rien, La force du silence, et le dernier paru cette année, Le soir approche et déjà le jour baisse. Si vous ne les avez pas, vous pouvez vous les acquérir à la fin de cette rencontre. Le cardinal Sarah se fera un plaisir de vous les dédicacer, mais je pense qu'il n'est pas couché. Mais il a prévu. Éminence, votre vie est construite sur le roc de la foi. Votre vie est construite sur le combat pour la vérité de Dieu, pour l'humilité, la simplicité et le courage. Et oui, quel courage! Une succession de moments qui semble impossible sans l'intervention du ciel.
Venez en ce lieu avec votre liberté de parole, nous livrer un enseignement, nous livrer vos réflexions sur l'Église, sur le monde moderne, sur l'Occident, la morale, la vérité, le mal et Dieu, toujours. Merci, Vinant, de nous proposer ce soir un véritable entretien sur la foi.
Excellences, chers prêtres religieux, religieuses, diacres permanents et séminaristes du diocèse de Vannes, chers directeurs, enseignants et membres du personnel des établissements catholiques du Morbihan, chers frères et sœurs dans le Christ, permettez-moi tout d'abord de remercier très chaleureusement Son Excellence Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes, pour son accueil si cordial et son amitié. Je voudrais dire toute ma gratitude aux membres de l'enseignement catholique du Morbihan, aux prêtres religieux et religieuses, et à vous tous, chers amis, fidèles laïcs, en particulier à tous ceux qui contribuent par leur dévouement à la réussite de notre rencontre de ce soir. C'est une immense joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie tous et chacun pour votre présence amicale qui m'honore plus que je ne mérite. Passons maintenant à l'objet de notre rencontre, Dieu ou rien. Entretien sur la foi. Comment Dieu ou rien est-il né? À vrai dire, en 2015, je ne pensais pas du tout écrire un livre. Mais un jour, M. Nicolas Dia, qui préparait un livre sur le pape Benoît XVI, intitulé « L'homme qui ne voulait pas être pape », est venu chez moi dans le but d'échanger quelques idées sur différentes questions. Et à l'issue d'une deuxième rencontre avec lui, il m'a proposé d'écrire un livre sur ma vie. J'ai répondu que ma vie ne représentait aucun intérêt. Il y a tellement de vies plus belles et plus riches que la mienne. Mais, j'ai ajouté, nous pourrions éventuellement, au cours d'un entretien, aborder certaines questions actuelles de l'Église, de la société, de notre monde, de plus en plus globalisé et plein de confusion, d'ambiguïté, d'incertitude. Même dans l'Église catholique, on a l'impression qu'il n'existe plus de magistère ni d'enseignement doctrinal et moral sûr. Chacun s'octroie une liberté absolue pour proclamer ses opinions et ses valeurs morales. Moi aussi, je voudrais proclamer ma foi et ma fidélité radicale à Jésus-Christ, au magistère pluriséculaire de l'Église, comme une humble contribution à la lutte que Benoît XVI mène contre la dictature du relativisme. Nous avons donc commencé par les deux premiers chapitres qui relatent mon expérience personnelle vécue dans un contexte sociopolitique particulièrement difficile, celui de la révolution en Guinée avec Sékou Touré, les rapports extrêmement tendus entre l'Église et l'État guinéen, difficultés et tensions qui ont conduit à l'expulsion du premier archevêque de Conakry, Mgr Gérard Demiguille, en août 1961, à l'arrestation et à l'emprisonnement du deuxième archevêque de Conakry, Mgr Raymond-Marie Tshidimbo, en décembre 1970, à l'expulsion de tous les missionnaires en mai 1967, et les 26 années de dictature et de persécution. Moi-même, j'ai été sur une liste de personnes à éliminer en avril 1984. Mais j'ai échappé à la mort grâce à la providence divine. Quand je regarde ma vie, mon cheminement vocationnel tortueux, j'ai commencé mes études et ma préparation au sacerdoce en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, et de nouveau en Guinée, puis en France, et enfin au Sénégal. J'y vois avec clarté la trace concrète de la prédilection divine à mon égard. Après ces deux premiers chapitres, vous trouverez dans Diorient des réflexions sur les papes depuis Pie XII jusqu'au pape François, sur l'Église, sur Rome, sur le monde moderne, l'Afrique, la profonde crise anthropologique et la crise de la foi du monde occidental, l'idéologie du genre, la morale, la vérité, le mal, la prière. Je vous recommande particulièrement la partie sur la prière. Vous découvrirez ce que c'est que cette rencontre face à face avec Dieu. Mais Dieu, disons, est vraiment le cœur de Dieu Orient. Pourquoi ce titre? Parce que nous constatons aujourd'hui une éclipse, une absence de Dieu dans le monde politique, économique, culturel et même dans nos vies personnelles. Chez la grande majorité des hommes, Dieu n'a aucune place. Dans le meilleur des cas, il lui donne les miettes de leur temps et lui manifeste une totale indifférence. Et même certaines âmes consacrées, évêques, prêtres, religieux, religieuses, n'ont plus de temps pour lui, tellement ils sont occupés à de multiples réalités sociales considérées légitimes et urgentes. La vraie crise que traverse notre monde aujourd'hui n'est pas essentiellement une crise économique ou politique, mais une crise de Dieu. Certes, on parle aujourd'hui que de la crise économique, dans l'essor de la puissance économique de l'Europe, après des orientations originelles plus éthiques et religieuses, l'intérêt économique est devenu déterminant, de façon toujours plus exclusive. L'homme d'hier, comme celui d'aujourd'hui, quelle que soit sa race, sa couleur, sa culture, son pays et son continent, est orienté presque exclusivement vers la possession et l'usage des biens matériels. Et dans le contexte culturel, plus spécifiquement de l'Occident, il n'est pas exagéré d'affirmer que l'homme travaille, organise et gère les rapports humains, politiques, économiques et commerciaux, provoque des guerres, produit des armes de destruction massive, envahit et conquiert des pays uniquement ou presque pour amasser et accumuler des richesses matérielles et asseoir son autorité et son hégémonie. Avec la belle et noble raison d'installer de force et partout la démocratie et d'apporter la paix et la liberté, l'Europe et les États-Unis ont créé le chaos dans beaucoup de pays, surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Mon jugement peut paraître inexact ou exagéré, mais nous ne pouvons pas nier la réalité d'aujourd'hui. Regardez l'Irak, regardez la Libye, la Syrie, l'Afghanistan. Qui a détruit l'Irak? Qui a détruit la Libye? Oui, l'Europe traverse depuis plus d'un siècle une crise des civilisations sans précédent. Cette crise n'est donc pas récente, mais elle ne cesse de s'approfondir, de s'aggraver et de démolir toute référence à Dieu. La culture occidentale, surtout, s'est progressivement organisée comme si Dieu n'existait pas, disait le pape Saint Jean-Paul II. Beaucoup aujourd'hui ont décidé de se passer de Dieu. Comme affirme Nietzsche, pour beaucoup en Occident, Dieu est mort. C'est nous qui l'avons tué. Nous sommes les assassins de Dieu. Et nos églises sont les caveaux et les tombeaux de Dieu. Un bon nombre de fidèles ne fréquentent plus les églises pour éviter d'y sentir la pétrifaction de Dieu. Mais ce faisant, l'homme ne sait plus ni qui il est, ni où il va. Il y a comme un retour au paganisme et à l'idolâtrie. La science, la technologie, l'argent, le pouvoir, la liberté à outrance, les plaisirs illimités sont aujourd'hui nos dieux. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, surtout en Occident, et pas seulement en Occident, vient du fait que nous avons abandonné Dieu pour donner de l'importance à des riens. Certes, l'économie, la politique, la science, la technologie et les gigantesques et prodigieux progrès sur le plan de la santé et des communications sociales ne sont pas des rien. Ce sont des acquis colossaux pour le bien-être de l'humanité. Mais par rapport à Dieu, ce sont véritablement des rien. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, tout subsiste. Il est le principe. Toute la plénitude divine habite en lui, nous dit saint Paul. En dehors de lui, il n'y a rien qui tienne. Tout tient de son être et sa vérité en Dieu. En un mot, c'est Dieu ou rien. À vrai dire, nous-mêmes, nous ne sommes rien devant Dieu. Et pourtant, nous sommes éminemment précieux et de haute noblesse aux yeux de Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance parce qu'il nous veut semblables à lui. Il veut que nous soyons saints parce que lui, le Seigneur, notre Dieu, est saint. Il est descendu jusqu'à nous. Il a pris notre humanité pour nous élever jusqu'à lui. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disait saint Irénée. Deus homo factus est, ut homo fieret Deus. Certes, nous avons d'énormes problèmes, des situations souvent douloureuses, une existence humaine difficile et angoissante. Pourtant, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui donne sens à toutes choses. Nos soucis, nos problèmes, nos souffrances existent et nous préoccupent. Mais nous savons que tout se résout en lui. Nous savons que c'est Dieu ou rien. Et nous le savons comme une évidence qui s'impose non de l'extérieur, mais à l'intérieur de l'âme. Car l'amour s'impose non par la violence, mais en séduisant le cœur par une lumière intérieure. Par Dieu ou rien, je voudrais parvenir à replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de notre agir, au centre de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper. Afin que notre cheminement de chrétien puisse graviter autour de ce roc qu'est Dieu et de cette ferme assurance de notre foi chrétienne, vivifiée et renforcée par la prière et par notre rapport intime et personnel avec Dieu. Sans louange, sans une intense vie de prière, sans adoration et donc sans Dieu, il n'y a que guerre, massacre, division et égarement. Sans Dieu, au cœur de l'homme, il n'y a que dispute, mensonge, violence, haine, destruction humaine et déchirement, comme nous le voyons aujourd'hui. Je voudrais illustrer ce que je viens d'affirmer par ce récit emprunté à la légende hagiographique des saints musulmans. Nous savons par expérience qu'avoir un voisin peu sympathique et méchant peut rendre pénible notre existence. Mais cette difficulté et ces désagréments ne peuvent durer que 15 ans, 20 ans, au maximum 50 ans, puis la mort nous en sépare. Mais si nous devons avoir un mauvais voisin pour l'éternité, il est mieux de le connaître maintenant et nous y préparer. Et cette légende illustre ceci. Un monsieur qui s'appelait Abdelwahid ibn Zayd voulait savoir qui serait son voisin au ciel. On lui répondit, « Ô Abdelwani ibn Zayd, tu auras pour voisine Maïmouna, la noire. » « Où est-elle, cette Maïmouna ?» demande Abdelwani ibn Zayd. « Elle est chez les Banu, une telle à Koufa. » lui a-t-on répondu. Abdelwani ibn Zayd se rendit à Koufa et se renseigna sur Maïmouna. C'était, lui dit-on, une folle qui fait paître les moutons du côté du cimetière. Abdelwani ibn Zayd se rendit au cimetière et trouva Maïmouna en train de prier. Les moutons de Maïmouna paissaient seuls. Et cela était d'autant plus étonnant et merveilleux qu'ils étaient mélangés à des loups. Et les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Après qu'elle ait fini de prier, Abdelwani ibn Zayd demanda à Maïmouna, « Comment se fait-il que les loups fassent si bon ménage avec tes moutons ?» Et Maïmouna de répondre, « J'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre les moutons et les loups. » Les seuls moyens humains, les seules négociations politiques ou diplomatiques sont impuissants à opérer l'unité et à établir la paix entre les hommes. Parce qu'il y a un virus de désunion qui habite à l'intérieur du cœur humain depuis le péché originel. L'unité des enfants de Dieu est une œuvre que seul le Christ peut réaliser par l'Esprit Saint, car le Christ est notre paix, dit saint Paul aux Éphésiens. Mais sans la prière, l'Esprit Saint bute en notre âme contre une porte close. Faisons donc une place plus grande à Dieu, à la prière et à l'adoration dans notre vie. Alors chacun de nous pourra dire, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré et pacifié les rapports des hommes et des peuples entre eux. Sans prière, il n'y aura que guerre, destruction et massacre. Après avoir tué Dieu, ou en procédant comme si Dieu n'existait pas, il est difficile de trouver un fondement au droit. Déjà Pie XII, en 1939, dénonçait cette méconnaissance et ce refus de Dieu comme fondement de la loi. La loi, de la racine profonde et dernière des maux que nous déplorons dans la société moderne, est la négation et le rejet d'une règle morale universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les relations internationales. C'est-à-dire, la méconnaissance et l'oubli si répandu de nos jours de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fondement en Dieu, créateur de toutes choses, Père de tous et suprême et absolu législateur. Aujourd'hui, les Nations Unies et les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus, pour donner à tous un accès sans entrave au plaisir sexuel et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement des dieux qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme. La libérer du père, la libérer de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de l'humanité. La distorsion juridico-politique sont inventées pour satisfaire nos propres intérêts et désirs égoïstes et pour déstructurer des sociétés jugées rétrogrades. Ces nouvelles lois dénommées civiles sont aux deux extrêmes. Le droit de mourir et le droit de ne pas naître. Entre les deux se place le droit à l'avortement, le droit aux manipulations génétiques, le droit à l'enfant réduit à n'être qu'une chose, un objet, mais il y a aussi le droit à l'insulte et à la profanation de la religion. En regardant et en analysant notre monde et sa volonté d'émancipation et d'autonomie par rapport à Dieu, nous constatons bien qu'au nom d'une perversion de la liberté, désormais déboussolée, nous sommes confrontés à une tentative sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celle de détruire l'humanité elle-même, de détruire la capacité que l'homme a naturellement, c'est-à-dire la capacité d'aimer, et de priver ainsi l'humanité d'une source irremplaçable de lumière, de force et d'amour, c'est-à-dire Dieu. Ce qui ruine l'homme, c'est sa rupture et la destruction de ses rapports personnels avec Dieu. Ce qui nuit au vrai bonheur de l'homme, c'est la confusion et le déséquilibre des esprits, c'est l'esclavage de l'argent, c'est l'exploitation à des fins commerciales et égoïstes du rêve sacré de l'homme. Et surtout, c'est la méconnaissance de la vraie valeur de l'homme. C'est l'oubli des finalités essentielles de la société. C'est ce qui fait que nous n'avons même pas le temps de vivre et d'aimer. Nous avons tué Dieu et nous sommes en train de détruire l'homme. Cette destruction aboutit finalement au refus de prendre connaissance du plan de Dieu sur l'homme. La destruction du corps de l'homme par la destruction irréversible de son intégrité génétique. C'est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés à l'apogée de la rébellion de l'Occident contre Dieu et contre la personne humaine. Jamais, dit Margaret Peters, la révolte n'a connu une telle expansion horizontale à travers le monde. La crise spirituelle de l'Europe engendre nécessairement une crise profonde et une force de destruction anthropologique dont l'humanité pourrait ne pas s'en relever. La destruction systématique de la famille est promue au nom des valeurs démocratiques détournées de leur sens originel. Souvent sous couvert des luttes contre la discrimination, certains veulent effacer la différence des sexes au sein même du mariage et promouvoir des modèles familiaux dans lesquels l'amour conjugal et la transmission de la vie deviennent des éléments dissociables. Mais l'analyse limpide et les avertissements vigoureux du pape Benoît XVI nous rappellent que l'identité européenne se manifeste dans le mariage et la famille. Et l'Europe ne serait plus l'Europe si la famille, cette cellule fondamentale de l'organisme social, disparaissait et se voyait totalement transformée. Nous sommes tous malheureusement témoins aujourd'hui d'une agression violente et d'une menace de démolition du mariage et de la famille. En bruyant contraste, ajoute Benoît XVI, voici maintenant les personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins assimilée au mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité dans son ensemble, où en dépit de toutes les variétés de formes juridiques matrimoniales, le mariage était cependant toujours considéré, conformément à son essence, comme la communion particulière d'un homme et d'une femme, s'ouvrant aux enfants et constituant ainsi la famille. Il ne s'agit donc pas ici de discrimination. Il s'agit de savoir ce qu'est la personne humaine en tant que femme et homme et comment leur vie commune peut recevoir une forme juridique. Si d'une part, leur vie commune se détache toujours davantage des formes juridiques, et si par ailleurs, l'union des personnes homosexuelles est toujours plus considérée comme étant de même nature que le mariage, nous sommes alors devant une disparition de l'image de l'être humain, dont les conséquences peuvent être extrêmement graves. Au nom d'un constructivisme animé, d'une véritable haine de la nature, on prétend construire la masculinité et la féminité afin de promouvoir dans le monde une indifférenciation des sexes. Et les grandes victimes de cette politique nihiliste sont d'abord les femmes, détournées de leur vocation à la maternité, et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que le droit à l'avortement soit proclamé à l'échelle universelle. Quand un Parlement autorise l'interruption de la grossesse, admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain innocent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi de la nature. Vous voyez la perversion qui guette le droit. Comment pouvons-nous réduire un être humain à un objet dont on peut disposer jusqu'à sa destruction. Un être humain doit être accueilli et respecté. Il n'est pas l'objet d'un droit. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays pauvres l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Les pays les plus touchés par cette dictature coloniale est le Vietnam. Le Vietnam connaît 1 600 000 avortements par an. C'est une horreur. Le droit se trouve ainsi dénaturé. La médecine elle-même se trouve pervertie. Puisqu'au lieu de chercher à guérir, à améliorer la santé, à adoucir la souffrance, elle consent à se mettre au service de la mort, avant comme après la naissance. En Belgique, lors du débat sur l'euthanasie des enfants, en 2014, on a légiféré. La loi est passée sans problème. Il n'y eut que quelques protestations, alors que c'est l'avenir de l'homme et de l'humanité qui est en jeu dans tous ces débats. En ce qui concerne la famille et le mariage, il y a une volonté non seulement de faire éclater, mais aussi et surtout de détruire les fins du mariage et déstructurer et dénaturer la cellule familiale. L'idéologie du genre et ces groupes de pression, ils travaillent avec acharnement et avec des gros moyens financiers et médiatiques. L'Église se trouve dans une situation étonnante. Des hauts prélats, issus surtout des nations nanties, s'emploient à apporter des modifications à la morale chrétienne concernant le respect absolu de la vie dès sa conception jusqu'à la mort naturelle. Les divorcés remariés et d'autres situations familiales problématiques . Ces gardiens de la foi devraient cependant ne point perdre de vue que le problème fondamental posé par l'éclatement des défunts du mariage est un problème moral et de la morale naturelle. C'est au plan naturel que l'homme et la femme sont appelés à s'unir définitivement et indissolublement pour se témoigner de la tendresse, pour se soutenir dans une harmonieuse complémentarité et pour procréer. Paul VI, avec une grande intelligence et une parfaite fidélité à l'enseignement de l'Église, voulait surtout, à travers Humanae Vitae, souligner deux aspects indissociables dans l'acte conjugal. L'union et la procréation. Cette doctrine, écrivait-il, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure même, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération d'une nouvelle vie, selon des lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant c'est des aspects essentiels, unir procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens du mutuel et vénérable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme et de la femme. Nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement en mesure de comprendre ce caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental. C'est cette réalité naturelle que le Seigneur a élevée à la dignité d'un sacrement. Face aux puissances qui ébranlent actuellement la famille, l'Église devrait se découvrir la vocation d'être la seule instance qui soit en mesure de sauver la sexualité humaine et l'institution naturelle du mariage et de la famille. Il ne s'agit pas seulement de sauver la morale chrétienne. Il faut sauver et protéger la morale naturelle. Il faut sauver et protéger l'humanité. Les prélats catholiques et laïcs chrétiens devraient se souder et refuser de contribuer à la destruction de la morale naturelle. Les grandes dérives ont surgi lorsque certains prélats ou intellectuels catholiques ont commencé à dire et à écrire « feu vert pour l'avortement » ou pour les unions homosexuelles ou pour l'euthanasie. Or, à partir du moment où des catholiques abandonnent l'enseignement de Jésus et le magistère de l'Église, ils contribuent à la destruction de l'institution naturelle du mariage et de la famille. C'est toute la communauté humaine qui se trouve fissurée par cette nouvelle trahison des clercs. Mais je vais poser une question clé. Le magistère de l'Église est-il compétent pour vérifier la morale naturelle? Il faut que l'Église en revienne à Humanae Vitae de Paul VI, ainsi qu'aux enseignements de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur ces questions vitales pour l'humanité. Le pape François reste dans le sillage de ses prédécesseurs chaque fois qu'il souligne la coïncidence entre l'Évangile et l'amour et l'Évangile de la joie. Il faudra affirmer avec force et sans aucune ambiguïté le poids magistériel de tout cet enseignement et mettre en relief sa cohérence et protéger ce trésor contre les prédateurs de ce monde sans Dieu. Dieu ou rien aborde toutes ces questions avec précision, avec clarté et la fermeté qu'exige notre fidélité radicale à l'Évangile et au magistère de l'Église, dans un langage serein et respectueux. J'ai été profondément touché par la lettre que Benoît XVI m'a adressée pour me dire « J'ai lu Dieu ou rien avec un grand profit spirituel, avec joie et gratitude. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'aborder avec clarté l'idéologie du genre. Je vous remercie à vous aussi. Et je vous dis une gratitude profonde pour avoir eu la patience de m'écouter et je vous recommande la lecture de Dieu ou rien. Merci.
Excellence, plusieurs personnes viennent de nous faire passer des questions. On en a sélectionné 4, sinon ce serait ingérable, vous imaginez bien. La première, Éminence, pourriez-vous nous relater le début de votre vocation ? Il n'y a pas de joker.
Voilà. Bien. J'étais tout petit et j'étais servant de messe. Et j'allais à la messe tous les jours à 6 heures du matin pour servir. Et quand j'ai eu 11 ans, le prêtre à qui j'ai servi la messe m'a dit, est-ce que tu veux aller au séminaire ? Et je lui ai dit oui, mais je ne savais pas ce que c'est qu'un séminaire. Et j'ai demandé, mais pourquoi faire ? Il m'a dit, prêtre comme moi, missionnaire. Ah, j'ai dit, je veux bien. Il m'a dit, bon, va en parler à tes parents. Alors, j'ai été voir d'abord ma maman. J'ai dit, maman, voilà, je vais aller au séminaire. Elle aussi ne savait pas ce que c'est qu'un séminaire. Elle me demande pourquoi faire. Et j'ai dit, pour être comme le père. Tu es malade. Tu as déjà vu un prêtre africain ? À l'époque, il n'y avait pas dans mon village. Je n'avais jamais vu un prêtre africain. Ça, c'est pas possible. Il dit, bon, va en parler à ton papa. J'ai été voir papa. Papa m'a pris dans les bras, il m'a dit, mais mon enfant, t'es arrivé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux pas. Et puis, qui t'a dit ça? Il dit, c'est le père qui m'a dit que je pouvais. Si vous voulez, aller contrôler, aller voir, aller vérifier chez le père. Et donc, les parents sont allés voir si c'est vrai. Et le père a confirmé, oui, c'est moi qui ai donné cette idée à votre enfant. Mais les voisins disaient à mes parents, mais ça ne va pas. Je suis le seul enfant de ma famille. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Et les voisins disent, mais vous ne pouvez pas laisser votre enfant se faire prêtre. Qui va s'occuper de vous quand vous serez vieux? Vous n'aurez pas de petits-enfants. Mais mes parents avaient une foi énorme, plus que la mienne. Et ils ont dit, mais Dieu nous a donné un seul enfant. S'il le veut, nous ne pouvons pas lui refuser. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de séminaire proprement en Guinée. Je suis allé en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Entre-temps, la Guinée est devenue indépendante. Je suis reparti en Guinée. Mais l'Église n'avait pas le droit d'enseigner. Il n'y avait pas de séminaire, pas d'école. Donc j'ai terminé dans le lycée de l'État. Et on avait une maison où dormir. On allait à l'école, dans le lycée de l'État. Quand j'ai fait le baccalauréat, je suis allé à Nancy faire le grand séminaire. Parce qu'il n'y avait pas de séminaire chez nous. Donc l'État, mais pour sortir de la Guinée, on m'a mis la soutane. Parce qu'il dit, mais non, il peut étudier à l'université ici. On dit, non, il va être prêtre. Donc ici, il n'y a pas d'école pour les prêtres. Donc on m'a mis l'habit, la soutane. Je suis arrivé en France en 64. Et bien sûr, quand j'étais à Paris, j'ai enlevé l'habit pour aller au séminaire de Nancy. Et là, donc, j'ai fait le séminaire de Nancy. En temps, les relations à la Guinée et la France étaient mauvaises. Je suis reparti de nouveau en Afrique, au Sénégal. C'est là-bas que j'ai terminé le grand séminaire pendant 2 ans. J'ai été ordonné le 20 juillet. Le 20 juillet, ceux qui se souviennent, et des grands événements, mon ordination épiscopale, mon ordination sacerdotale, et les Américains qui ont aligné, qui ont mis les pieds sur la lune, hein, le 20 juillet. Donc voilà comment j'ai eu ma vocation.
La suite est dans le livre du Haut-Rien.
Voilà, vous pouvez lire ça, Damien.
Il faut lire, voilà. Pour vous, Éminence, à quoi doit nous conduire la célébration de l'Eucharistie? Qu'est-ce que cela apporte de plus dans nos vies, dans nos communautés?
L'Eucharistie, c'est le trésor le plus grand que Jésus nous a laissé. Parce que l'Eucharistie fait que moi, pauvre homme, je reçois Dieu et Dieu me reçoit. Celui qui mange mon corps est bon. Je demeure en lui et lui demeure en moi. L'Eucharistie me transforme, fait de moi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devient moi-même et il me transforme. Donc, c'est pourquoi il faut célébrer l'Eucharistie avec beaucoup de dignité, beaucoup de foi, beaucoup de respect, beaucoup de sacralité. La liturgie doit être belle. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre. Sans l'Eucharistie, le chrétien ne peut pas vivre. Vous savez, au IIIe siècle, quand il était interdit de dire la messe, au temps de Dioclétien, il y a un groupe d'Africains en Tunisie qui ont été surpris en train de dire la messe. Ils ont été pris, on leur a dit, mais vous ne savez pas que c'est interdit de dire la messe. Il dit, mais nous, sans Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Ils ont été massacrés. Vous savez, il y en a... Ici, personne n'est empêché d'aller à la messe. En Afrique du Nord aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas aller à la messe. Ils se font tuer. Mais ils essayent de se cacher pour aller dans une ville où ils ne sont pas connus. Ils rentrent par la sacristie, participent à la messe, communient et s'en vont. S'ils ne peuvent pas aller, les prêtres consacrent l'Eucharistie. Il met les hosties dans une boîte d'aspirine effervescente, c'est plus gros. Et il donne à quelqu'un, dit, tu rencontres à telle personne, à tel endroit, tu lui donnes cela. Cet chrétien prend, il va s'enfermer dans sa chambre pour communier. Parce que le chrétien, sans Eucharistie, il ne peut pas vivre. Il ne faut pas jouer avec l'Eucharistie. Ce n'est pas une fête. C'est le moment où l'homme rencontre face à face avec Dieu. C'est le sacrement le plus grand. Tout à l'heure, je disais aux séminaristes, ceux qui cherchent la vocation, Dieu nous a laissé trois choses, trois piliers sur lesquels nous devons planter notre vie. Crux, la croix. Hostia, l'hostie. Et Virgo, et la Vierge Marie. Un chrétien qui ne connaît pas la croix, ce que nous portons là, ce n'est pas un bijou. C'est pour nous rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu qui est mort sur la croix, parce qu'il nous aime. Et nous ne reconnaîtrons Dieu que sur la croix. Tous nous sommes nés de la croix. Et nous ne pouvons vivre, nous, qu'en nous nourrissant de l'Eucharistie. C'est pourquoi nous devons nous préparer à célébrer l'Eucharistie. En ayant un cœur propre, un cœur saint, un cœur purifié par la confession. Et se nourrir le plus souvent possible. Et nous confier à la Vierge. Aucun homme ne peut vivre sans sa maman. Vous savez, quand nous naissons, la première personne qui nous a dans les bras, c'est la maman. Elle qui nous apprend les premières paroles. Sans maman, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas naître. Donc Dieu, Jésus connaît ça. C'est pourquoi il nous a laissé ce qui nous est indispensable. La dévotion à la Vierge Marie, la récitation du chapelet quotidiennement, nous aide à implanter, à consolider notre vie chrétienne. Rappelez-vous, crux, la croix, hostia, l'hostie, et Virgo, et la Vierge Marie. Voilà où il faut planter votre vie. Et il faut donc célébrer l'Eucharistie avec respect. Le prêtre ne peut pas inventer des choses pendant qu'il célèbre l'Eucharistie. Il ne peut pas inventer des choses. Il ne peut pas créer des choses. Il doit suivre les rubriques. Vous savez, souvent nous avons un trésor que nous ne comprenons pas souvent. Il y a un musulman, un imam, qui discutait un jour avec un prêtre catholique en Afrique. L'imam lui expliquait ce que c'est que l'islam. Le prêtre lui expliquait ce que c'est que le christianisme. Et un jour, le prêtre lui dit, l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus-Christ, notre Dieu. Et l'imam lui a dit, mais si c'est vrai ce que tu me dis, vous devriez ramper pour vous approcher de la présence réelle de Jésus-Christ. Or, nous approchons de la présence réelle de Jésus-Christ, souvent sans respect, sans conscience que nous nous approchons d'un grand mystère. Nous devrions ramper. Ce n'est pas humiliant. Ce n'est pas humiliant. C'est un acte de respect. Donc, voilà l'important de l'Eucharistie.
Éminence, comment voyez-vous l'avenir du catholicisme dans le monde, en Afrique et en Europe?
Avec sourire. Il ne faut pas regarder seulement autour de vous. Les églises sont vides, pas ici, parce que vous êtes remplis là. Mais en Occident, souvent, moi je connais l'Allemagne, la Belgique, la Hollande. Donc, c'est des églises vides. Mais j'étais aussi pendant, vous avez entendu, j'étais 9 ans, responsable d'un grand dicastère qui s'occupe de la mission. Il y a un grand avenir, un grand progrès. Je donne l'exemple de l'Afrique. En 1900, il n'y avait que 2 millions de catholiques. 2 millions. Un siècle après, nous sommes 200 millions de catholiques en Afrique. Un grand bond. Beaucoup de vocations, beaucoup de conversions. En Asie, c'est moins spectaculaire, mais aussi un grand progrès. Il y a des obstacles culturels et politiques, mais il y a aussi un grand progrès. L'Église ne meurt pas malgré les apparences. Jésus a vaincu la mort. Jésus est avec nous. Donc, il faut regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance. Et même chez vous aussi. Regardez comme vous êtes plein ici. Je pense même que la France, personnellement, est le pays où l'Église christianisme se tient un peu mieux que la Hollande, la Belgique, l'Allemagne. Et puis vous savez, si vous lisez mon dernier livre, le soir approche et déjà le jour baisse. De quoi il s'agit? Quand Jésus a été massacré, tué, enterré, son tombeau bouclé, tout est perdu. Les apôtres disent, bon, c'est fini, on va partir chez nous, recommencer notre vie comme si on n'avait rien fait. Découragés tous. Et puis le Seigneur les rejoint sur la route, il dit, mais pourquoi vous êtes triste? Mais il dit, mais tu es le seul à ignorer ce qui s'est passé à Jérusalem. Il dit, mais quoi? Mais le Christ, nous croyons que c'était le Messie, ils l'ont tué il y a 3 jours. Il y a bien sûr quelques femmes qui ont dit qu'ils ne l'ont pas trouvé, mais c'est fini. Et Jésus fait une grande catéchèse. L'avenir de l'Église, si nous recommençons à faire la catéchèse, le catéchisme, on a abandonné ça depuis le Concile Vatican II. Jésus reprend la catéchèse en partant des prophètes et toute la Bible. Il a parlé. Et en plus, bon, il continue, il dit, mais reste avec nous, Seigneur, ne va pas loin. Et à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Si nous célébrons bien l'Eucharistie, si nous recommençons la catéchèse, l'Église refleurira. Mais si vous faites des homélies de 10 minutes, alors, 10 minutes le premier dimanche, 10 minutes le deuxième dimanche, 10 minutes, 4 dimanches, j'ai prêché combien de minutes? Ça suffit pour nourrir une chrétienté? Donc, il y a l'avenir, hein? Il y a l'avenir, mais il faut faire comme le Christ, quand nous sommes découragés, désespérés, faire la catéchèse, former les chrétiens. Ils ne connaissent plus la foi chrétienne. Il faut former les chrétiens. Il faut qu'ils connaissent leur religion. Il faut qu'ils célèbrent bien l'Eucharistie. Il y a 2 endroits où nous revivons la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et moi, je crois que aujourd'hui, peut-être, on est découragé parce qu'il y a une grande tempête dans le bateau, dans la pirogue. Où Dieu, mais Jésus est là. Il dort. Alors, bien sûr, on a peur. Donc, on le réveille, mais Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de couler? Et qu'est-ce qu'il répond? Pourquoi avez-vous peur? Mais il y avait de quoi avoir peur, n'est-ce pas? La tempête. Si le Christ est avec nous, pourquoi avons-nous peur? Si le Christ est avec nous, l'Église vivra. Et c'est vous les jeunes, l'avenir, le présent, l'avenir de l'Église. Mais il faut réapprendre à connaître votre religion. Quand vous allez au catéchisme, ce n'est pas seulement faire des dessins, faire des colorations. Non. Il faut apprendre. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. On aime quelqu'un parce qu'on le connaît. Si on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas l'aimer.
Éminence, dernière question avant de prier ensemble. Quelle place donner à nos traditions populaires dans la liturgie? Ici, notre langue bretonne, nos cantiques, nos pardons. Devons-nous vraiment nous battre pour garder nos traditions locales?
C'est évident que il faut se battre pour les valeurs. Il faut se battre pour ce que nous réalisons comme hommes et comme chrétiens. Et il n'y a pas seulement les coutumes. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquels nous devons nous battre. Parce que ce n'est pas les traditions qui sont menacées. C'est l'être humain, c'est le chrétien, c'est la doctrine, c'est l'enseignement de l'Église qui est attaqué. Si vous vivez vos coutumes, vos traditions, mais comme vive tout le monde, comme vit tout le monde, ben, ça peut être uniquement du folklore. Donc, vous devez garder vos coutumes, surtout les christianiser. Si vous lisez La faute du silence, j'y aborde la question de l'inculturation. C'est-à-dire que l'Évangile épouse ou touche notre culture, nos coutumes, non pas pour nous laisser comme nous sommes, mais pour que ces cultures, ces coutumes soient divinisées. Comme nous disions tout à l'heure en citant saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu n'est pas venu pour promouvoir des coutumes, mais pour que ces coutumes prennent la forme divine. Donc battez-vous, mais en les christianisant, en les faisant assumer les valeurs chrétiennes, que ces coutumes vous aident à approfondir votre foi et à vivre votre foi pleinement. L'inculturation, ce n'est pas mettre du vernis sur le message chrétien, mais c'est laisser Dieu pénétrer notre culture, pénétrer notre personne. Et quand Dieu pénètre notre personne, notre culture, c'est comme l'incarnation. Dieu a pris notre nature, non pas pour nous laisser dans la nature humaine, mais pour que cette nature se divinise. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, c'est important de conserver ces habitudes, ces coutumes, ces traditions, mais en les christianisant, en les faisant porter Jésus. Et qu'en portant Jésus, ces choses-là se transforment et nous consolident dans notre foi. Nous nous battons pour consolider notre foi, pour construire notre rapport à Jésus. Vous savez, par exemple, je donne il y a beaucoup de piétés populaires en Amérique latine. Mais vous savez combien de meurtres sont commis à Mexico par an? Pouvez-vous me dire un chiffre? Peut-être que vous connaissez mieux que moi. 30 000 personnes sont assassinées pour la drogue, pour ceci. Pourtant, ils sont tous catholiques. Et il y en a aussi qui viennent, il y a des grandes manifestations, par exemple, pour le jeudi saint, tout ça. Il y en a qui sont flagellés. Mais ils ne viennent que ce jour-là. Les dimanches, ils ne viennent pas du tout. Alors, à quoi sert cette manifestation folklorique? Donc, je pense que c'est important de garder ces coutumes, mais à l'air de là, cette incarnation, cette dimension chrétienne. Le problème chez nous, Africains, c'est encore plus important, parce que c'est pas en dansant, c'est pas ça qui est la liturgie. Bien en faisant des choses africaines, en ajoutant des choses. Il y en a, par exemple, chez nous, je crois que j'ai déjà dit à Kampala, il y a des messes qui durent 6 heures. Mais parce qu'on a mis beaucoup de choses dedans, beaucoup de discours, mais ce n'est plus de la messe. Ce n'est pas de l'inculturation, ça c'est du folklore, de l'amusement. Et si on continue comme ça, nous aussi on va perdre la foi en Afrique. Donc, je ne réponds peut-être pas à votre question, mais je pense que c'est important de conserver cela, mais vraiment de leur donner une structure chrétienne, une présence christique. Dieu nous a, quand Jésus nous dit soyez parfaits, il ne dit pas soyez des hommes parfaits. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour la perfection humaine seulement. Il est venu, il dit soyez parfaits comme votre Père céleste. Soyez saints comme Dieu est saint. C'est important de je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, c'est important que nous nous élevions vers Dieu. Dieu nous veut avec lui, pas pour rester sur cette terre avec nos coutumes, avec nos traditions, mais pour que ces traditions nous fassent monter vers lui. En ce sens-là, c'est bon. Et je pense que ce que vous faites ici à Sainte-Anne, c'est bien. Hein? Mais en regardant toujours Sainte-Anne, en regardant toujours la Vierge Marie, en regardant toujours Jésus-Christ, qui vous attire vers lui, vers le haut.
Voilà.
Voilà. Merci. Là où les apôtres sont réunis, Marie est toujours là. Elle a été parmi nous ce soir et demain, samedi, c'est un jour qui lui est consacré. Nous serons avec elle toute la journée. Elle va nous accompagner pour la célébration dominicale. Ce soir, nous voulons la saluer. Avec toute notre affection filiale, nous voulons lui confier notre foi, nous voulons lui confier ses diocèses, lui confier également vos familles, lui confier votre désir d'être témoin de son évangile. Nous pourrons chanter le Salve Regina ou un chant qui vous convient pour cette basilique. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucero, Es Gestas Pasare, Adina Vamus, Nesur Esibire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Merci infiniment, Monseigneur, Éminence. Mgr Sarah, pour vos propos décapants, émouvants, tonifiants. Merci d'avoir participé à ces deux rencontres aujourd'hui. Que Sainte Anne veille sur votre mission à Rome pour l'avenir de l'Église, là où vous êtes. Dans quelques instants, vous irez dédicacer des livres. Vous aurez certainement envie de vous adresser au cardinal. Ne soyez pas trop bavard, sinon son éminence va passer une nuit blanche. Et au sorti, vous aurez des personnes avec des corbeilles. Merci pour vos offrandes. Merci encore d'être venus très nombreux dans cette basilique. Bonne fin de soirée et bon retour chez vous avec prudence.